witch.
He's a witch too, you know.
You're a wizard, Harry.
Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à un sujet, disons, épineux. Il est épineux parce que, comme beaucoup de choses dans le monde de la sorcellerie et de l'ésotérisme, il ne fait pas l'unanimité. Mais aussi parce que, encore une fois, comme beaucoup de choses dans le monde de la sorcellerie et de l'ésotérisme, ses interprétations multiples le rendent plutôt difficile à définir et à appréhender. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du féminin sacré et de ce qui rend ce concept assez problématique, notamment d'un point de vue féministe. Donc on va dire que depuis le milieu des années 2010 à peu près, la sorcellerie est revenue sur le devant de la scène et le féminisme y a rapidement été associé, notamment avec les écrits de Mona Chollet. L'association entre sorcières et lutte contre le patriarcat m'a d'ailleurs semblé assez évidente mais aussi alléchante. Comme je le disais ici dans ma première chronique en 2020, il y a 2 ans, il y a une éternité, comme disait Joe Dassin, ou presque, la sorcière d'aujourd'hui est définitivement à l'image des préoccupations féministes du moment, empouvoirment, sororité, indépendance, protection de l'environnement, bien-être, compréhension et acceptation de soi. Elle personnifie des valeurs que beaucoup de femmes partagent et qui les aident et qui les rassurent.
Vous cédez au charme de l'autocitation.
Oui, j'aime bien. Oui, c'est classe.
Je le fais parfois.
C'est classe.
Oui, oui, non, mais...
Ça montre que je suis là depuis 2020 quand même. Et du coup, quand on entend parler de féminin sacré, on se dit effectivement, chouette, on va remettre un peu la femme au centre, on va resacraliser le féminin alors qu'il a été dénigré depuis des décennies. On se dit cool, on va redonner ses lettres de noblesse au féminin et tout ce qu'il représente. Et c'est vrai que dans une société patriarcale comme la nôtre, ça va faire du bien. Hélas, en 2022, dans les faits, on tombe souvent de sa chaise lorsqu'on essaie d'y regarder de plus près parce qu'en guise de féminin sacré, on se retrouve souvent face à des personnes qui promeuvent, des idées et des pratiques douteuses à base de cailloux dans le vagin. Sérieux, faut arrêter avec ça. J'ai l'impression d'en parler dans toutes mes chroniques pour dire que non, on ne se met pas un œuf de jade dans le frifri, mais ça continue encore à se développer et à se vendre. Donc en guise de féminin sacré, on se retrouve aussi face à des personnes qui promeuvent des idées aussi rétrogrades, qui sous couvert de libération de la femme font le lit du patriarcat, pour reprendre les propos d'Ilana Wiesmann, qui est sociologue et essayiste féministe et antiraciste, et qui a été récemment interviewée dans un article pour Mademoiselle sur le féminin sacré, c'était en octobre dernier. Donc avant d'avancer, je vais essayer déjà de définir ce concept de féminin sacré. Et pardon d'avance si c'est pas clair, mais il y a beaucoup de définitions, du coup c'est pas facile toujours pour moi de synthétiser. Dans un des livres que j'ai lu sur le sujet qui s'appelle « You are a goddess », donc vous êtes une déesse, qui a été écrit par une autrice qui s'appelle Sophie Bashford, elle définit le féminin sacré comme une philosophie qui présente un système d'interprétation de la vie et de l'univers, qui n'est pas nécessairement féminin ou lié à la femme, mais qui symbolise la force de vie féminine. Elle reprend un peu plus loin que se reconnecter à son féminin sacré, c'est un comportement conscient et guérisseur. Alors, on remarque que le féminin sacré, il est souvent associé à des caractéristiques symboliquement féminines, telles que l'amour inconditionnel, la compassion, le pardon, l'acceptation, la fertilité, la capacité à donner la vie. Et l'autrice continue d'ailleurs en disant qu'en règle générale, les femmes portent en elles plus de liens physiques, spirituels et énergétiques avec le féminin sacré. Donc, on peut comprendre le féminin sacré comme une espèce d'énergie fondamentale féminine que nous portons en nous, femmes et hommes, car tous les êtres, indépendamment de leur genre, portent ces deux polarités, masculine et féminine. Ça, c'est une vision qu'on va retrouver par exemple dans la Wicca, qui est donc la religion basée sur la magie, la sorcellerie, et la croyance en deux entités, la déesse et le dieu. Scott Cunningham, qui est l'un des pères de la Wicca, disait dans son livre paru en 1988, La Wicca, guide de pratique individuelle, que la déesse représente la mère universelle, source de fertilité, et qu'elle est associée à la lune. Quant au dieu, il est l'astre solaire, source de toute existence, la chaleur qui fait éclater de vie les semences végétatives et accélère le verdissement de la terre. Et il y a d'ailleurs dans un autre livre, par un autre auteur qui est Raymond Buckland, qui parle de la Wicca, l'un des principes, une grande règle de la Wicca, c'est « Nous concevons le pouvoir créateur dans l'univers comme une manifestation de la polarité masculin-féminin, inhérent à toutes les personnes et qui agit par l'interaction du masculin et du féminin. Nous ne privilégions pas plus l'un que l'autre, sachant que l'un soutient l'autre. Et dans un autre registre, dans La Voix du Tarot de Alejandro Jodorowsky, lui aussi parle beaucoup des archétypes masculins et féminins dans ses interprétations des cartes du tarot. Et c'est une vision qu'il tire, lui, plutôt des principes de la psychologie de Jung, à qui on doit les concepts d'anima et d'animus. Par exemple, Jodorowsky dit le principe masculin, c'est pas Jodorowsky d'ailleurs, c'est Jung qui dit ça. Le principe masculin, symbolisé par le soleil, est le père, Yang, source de lumière, de la chaleur et de la vie. Il est émetteur, il vivifie, manifeste les choses, il est le principe, la loi, l'ordre, le conscient, symbole de résurrection, d'immortalité et de la connaissance intellectuelle ou le logos. Quant au principe féminin, il est récepteur, symbolisé par la lune, la mer, yin. Il symbolise la beauté, l'amour, la sagesse, le temps qui passe, le renouvellement, la transformation. Il maintient les conditions favorables et harmonieuses à l'expression de la vie. Il relie, il est l'éros. Il représente l'inconscient, la vie intérieure et la spiritualité. Donc dans la Wicca, comme dans les bases du féminin sacré, on a donc cette idée d'équilibre, de balance entre un yin et un yang, qui est en chaque individu, quel que soit son genre. C'est aussi, le féminin sacré, un concept très années 60 New Age, axé sur le retour à la nature. Et en se reposant sur cette dichotomie du masculin féminin, on explique qu'il y a une puissance féminine originelle, une nature sauvage, qui aurait été oubliée par les femmes au fil du temps et des dominations. On parle souvent du féminin sacré comme d'une puissance dont les femmes auraient été déconnectées, et il renvoie donc à une nature profonde des femmes, non altérée par la culture patriarcale, et c'est une nature à laquelle on les invite à se reconnecter pour se sentir mieux et plus forte.
Quand vous parlez de féminin et de masculin, vous ne parlez pas spécifiquement des hommes et des femmes. C'est
non,
ça qu'il faut,
ça.
Faut vraiment être clair.
Le principe
parce que
de base,
sinon, ça donne une sensation de dichotomie très forte entre
eux. C'est ça. Mais c'est aussi ça qui va poser problème. Vous allez voir plus loin de par les interprétations qui en sont faites la plupart du temps. Mais du coup, cette vision, moi, au départ, m'a semblé assez intéressante. Sur le coup, je me suis dit, ouais, moi aussi, j'ai envie de me reconnecter à cette partie sauvage de moi-même. J'ai eu envie de me dire qu'il y avait une force dans ma féminité, alors que la société n'avait fait que de me répéter que tout ce qui était féminin était forcément plus faible, plus fragile, et que des caractéristiques comme le courage, la force, la bravoure, c'était des choses d'hommes desquelles je ne devais pas essayer de m'approcher. Et je comprends que pour moi, comme pour beaucoup, c'est un concept qui peut être séduisant. Dans l'article de Mademoiselle, on dit même se réattribuer soi-même en tant que femme cisgenre, ce qui est considéré dans notre société comme appartenant au féminin, peut avoir un côté rassurant. Ce phénomène peut notamment permettre de mieux vivre sa condition sociale au quotidien en revalorisant justement les caractéristiques dites féminines. Mais, comme je disais au début de ma chronique, tout n'est pas rose dans le monde du féminin sacré. Non,
ça, c'est un point assez intéressant que vous soulevez, parce que vous semblez dire que la réappropriation de ce qui pourrait être des formes de valeurs, on va dire, j'entends par valeur, non pas un jugement moral, mais
oui.
De quelque chose qui tient du féminin, et la réappropriation de ce féminin-là par les femmes cisgenres est peut-être parfois nécessaire.
Bah, ça permet en tout cas, on peut comprendre cette envie-là, parce qu'elle a un côté rassurant finalement, et que des choses comme être mère, s'occuper des enfants, sont revalorisées en se disant c'est ton côté féminin sauvage, ta nature première, et tu as été déconnecté de ça, même si tu le fais au quotidien, tu ne te rends pas compte que c'est une force. On vend ça comme des forces en fait, et ça peut être sympa en fait en tant que femme cis, de se dire ah bah ouais, en fait ce que je fais c'est cool. Sauf que en dehors de ça, c'est pas vraiment le cas, et c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui pose quand même pas mal problème, c'est que cette croyance repose sur une binarité plutôt rétrograde, avec des assignations de genre très claires, là où le féminisme veut justement s'émanciper de la considération biologique du genre, notamment au niveau de la sexualité, de l'orientation sexuelle et de la parentalité. Ça, c'est ce que dit encore Ilana Wiesman. C'est une vision qui est jugée essentialisante. Alors, l'essentialisme, là, c'est le terme sociologique qui est l'idée selon laquelle les hommes et les femmes sont différents par essence, de par leur nature physiologique. Dans cette notion-là, on ne distingue pas le sexe et le genre, et l'innéité biologique est plus importante que le comportement de l'individu, sur le comportement de l'individu, pardon, que les acquisitions extérieures. Donc on va dire un homme est comme ça parce que c'est un homme, et une femme est comme ça parce que c'est une femme, et que biologiquement elle a ces attributs-là sexuels. Et du coup, dans cette vision-là, on sacralise finalement des valeurs et des comportements finalement sexistes, enfermants et sans vraiment les remettre en question. En promouvant une idée de libération, finalement, on continue d'enfermer les femmes dans ces rôles de mère, dans ce rôle de celle qui enfante, qui protège, qui s'occupe de tout. Et d'ailleurs, le féminin sacré a quelque chose aussi de, est très attaché à la symbolique du sang menstruel et des règles comme marqueur de la féminité. Et c'est une des manières de s'y reconnecter, c'est de se réapproprier son cycle menstruel. Et bien que ce n'est pas essentiellement tout ce qu'il y a dans le féminin sacré, mais cette idée peut rapidement amener à croire que seules les personnes possédant un utérus peuvent s'y reconnecter, et ça fait fi de celles qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Mmh. Par exemple, les femmes ménopausées, les femmes trans ou toutes les autres femmes pour qui la menstruation, ce n'est pas un phénomène cyclique bien orchestré. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier problème qui... Alors, c'est un peu à couper du cheveu en quatre, hein, pour beaucoup. Mais,
bien sûr, mais il en va de même aussi pour les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
On peut se dire, je ne suis peut-être pas concernée finalement par ce discours-là, même si au départ on nous dit que ça peut être pour les hommes également, peut-être qu'eux ne vont pas avoir tout de suite l'envie de se tourner vers ce concept dans cet aspect-là. Mon autre problème avec le féminin sacré, c'est aussi et surtout ce qu'on va essayer de nous vendre pour nous y reconnecter. Donc des œufs de yoni, donc c'est les fameux œufs en pierre qu'on se met dans le frifri, aux culottes menstruelles, des soins énergétiques, des lignes de vêtements. Le capitalisme a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire pour que les femmes qui ont envie de retrouver leur nature sauvage le fassent en consommant. Et ça va parfois même très très loin. Dans un autre article qui est paru sur Mademoiselle en octobre aussi, cet article-là pour le coup parle du dernier rapport de la Miviludes et qui met en garde contre la marchandisation de l'épanouissement personnel.
Alors la Miviludes, c'est la mission qui s'occupe des, on va
de
dire,
la surveillance des sectes, de tous les mouvements qui peuvent être suffisamment dangereux pour être considérés comme des sectes. Et donc on lit un passage, le rapport décrypte un fonctionnement faussement vertueux à l'œuvre dans de nombreux groupes sous couvert de principes d'économie solidaire et alternative, de soutien moral, d'entraide, de bienveillance, de non-jugement, de dons, d'acceptation et d'harmonie. Les femmes sont invitées à entrer dans un système de Ponzi. Donc système de Ponzi, c'est de la vente pyramidale, hein, c'est interdit par la loi.
En tout cas, ça peut être un système qui peut mener à une forme d'arnaque, puisque quelque chose qui se nourrit.
Qui se nourrit de soi-même, des dons des uns et des autres. Ce qui fait que les centres d'argent reçus au centre du cercle par la personne qui se retrouve à la tête du réseau, qui serviraient à réaliser des rêves, à les rendre réels, sont en fait une manière de rémunérer la tête du réseau grâce aux dons des nouveaux entrants. Plus loin dans l'article, on lit même que...
Et c'est l'une des premières choses quand on se retrouve un peu éloigné des proches ou quand on vous demande de l'argent.
Oui, c'est quelque chose dont il faut se méfier
très rapidement.
Il faut rapidement,
être très attentif.
Il faut être très vigilant là-dessus. Ouais. Même dans l'ésotérisme et dans la spiritualité, c'est là où les gens se font beaucoup arnaquer malheureusement parce que on est des gens souvent en quête d'un autre, d'un truc meilleur, de soi-même, et on peut très très vite tomber dans ce genre d'arnaque. Et là, la Miviludes, elle relève qu'il y a une forte tendance à détourner le féminisme pour apporter des femmes en quête de spiritualité en jouant sur cette corde du féminin sacré. Donc il y a, on se met sous couvert de quête mystique, d'empouvoirment aux allures féminisme ou d'invitation à guérir en se reconnectant à son corps et son esprit pour nous vendre des formations et des stages, par exemple, qui échappent à toute réglementation et qui sont là que pour faire de l'argent à ceux qui les organisent. Et la Miviludes, pour le coup, recommande une vigilance particulière à l'égard de ce type de mouvement qui essentialise les femmes en les réduisant à des organes génitaux ou des facultés reproductives, alors même qu'il est présenté comme un mouvement féministe, destiné à leur épanouissement et incitant à davantage de liberté. Donc c'est là où ça devient pervers, en fait, ce concept qui, au départ, n'a pas vocation à être mauvais, hein, je veux dire, comme tout concept spirituel ou de toute croyance, il a très vite été ramassé et détourné, en fait, par des personnes au but a priori malveillant, sous couvert de libération de la femme et de reprendre le pouvoir sur soi et de se guérir, quoi. Donc, c'est pour ça que ce concept aujourd'hui il est un petit peu décrié par pas mal de personnes. Plutôt que de chercher à se reconnecter à ce féminin sacré ou voire à un masculin sacré, parce qu'il existe du coup un pendant masculin du féminin, évidemment, puisqu'on est sur cette binarité-là, on peut peut-être essayer de mettre un peu de queer dans sa pratique. Et ça tombe bien, puisque j'ai lu un livre sur le sujet, c'est le livre « Queering Your Craft », « Rendez votre pratique plus queer », qui a été écrit par une jeune femme qui s'appelle Cassandra Snow. Et elle a écrit ça en se basant sur à la fois ses connaissances en sorcellerie, en magie, mais aussi sur les études qu'elle a menées sur les théories, l'histoire et la culture du mouvement queer. Et dans ce livre, en fait, elle explique que, alors que le christianisme a gagné du terrain, du pouvoir, on a assisté effectivement au reflet des exclusions qu'il y a eu dans la religion, dans les autres sous-cultures, comme par exemple le paganisme. Et quand la Wicca est devenue populaire dans les années 50, la polarité homme-femme a été vraiment soulignée d'une façon qui, non seulement a exclu les personnes trans ou non-binaires, mais aussi qui n'a pas du tout été inclusive avec les personnes homosexuelles ou bisexuelles.
Il faut peut-être préciser un peu le terme queer qu'on utilise très souvent ici dans les Nobody's Perfect. En tout cas, on peut dire que c'est une façon de se définir qui va mettre un petit peu en retrait la dichotomie.
Oui, voilà, et la
homme,
norme.
Femme, ouais. Voilà. Le but est de dire voilà ce qu'est ma sexualité, voilà comment je me définis, serait mon identité. Le but est de réussir à se définir sans dire. Homme, femme, sexe, qu'est-ce que j'ai entre les jambes, qu'est-ce que ça signifie ensuite, et après il en va de même, on peut, et c'est ça qui est vraiment intéressant de votre part là déjà, c'est dans les pratiques des uns des autres, à partir de quand on peut pas injecter un peu de queer
De penser autrement en fait la pratique. Donc elle continue en expliquant finalement que bien que la Wicca soit fondée sur des principes magiques qui sont très très beaux, très importants, pour lesquels elle a toujours beaucoup d'attachement, la Wicca ainsi que la sorcellerie moderne entre guillemets est à la fois problématique dans cette binarité et dans toutes les contraintes pour les gens qui ne sont pas forcément dans cette norme. Et c'est pourquoi, pour elle, elle nous dit qu'il est peut-être nécessaire de rendre nos pratiques plus queer. Et je terminerai avec un passage de son livre. Dans un monde tendu et politiquement difficile, la sorcellerie queer, c'est une arme secrète. C'est d'abord la catharsis, quelque chose qui nous aide à purger nos émotions et à guérir. Ensuite, c'est une forme d'autonomie, de prise de contrôle de nos vies. Et à partir de là, c'est une forme de pouvoir. Le pouvoir de créer des résultats et d'exercer le changement. Le pouvoir d'aimer suffisamment notre monde pour avoir envie de le rendre meilleur. Et la puissance nécessaire pour y arriver. En cela, la sorcellerie a toujours été quelque chose que les groupes marginalisés peuvent et doivent s'approprier. Personne n'est plus impuissant que celles et ceux qui vivent en marge de la société, et c'est à cet endroit-là qu'on l'on trouve les personnes queer. C'est quelque chose de silencieux, presque secret, qui se passe dans ces marges pourtant. La société nous y envoie, mais dans ces ombres, nous apprenons à partager, à aimer et à nous épanouir, même dans les moments les plus difficiles. Moi, je dis amen to that. Voilà, c'était my two cents, mon petit point de vue sur ça. Je vous encourage vraiment à lire ce livre de Cassandra Snow qui s'appelle Queering Your Craft. Il a été publié chez Wiser Books. Il est disponible notamment en e-book sur les grandes plateformes de vente en ligne. Moi, je me l'étais procuré à l'occasion d'un Humble Bundle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui vend souvent des jeux vidéo ou des livres, des e-books pour récolter des fonds pour des œuvres de charité, des associations, etc. Donc, ils avaient sorti un bundle sur des livres de magie et de sorcellerie. Et un autre livre qui peut être intéressant à lire sur le concept de féminin sacré, même s'il y en a des centaines et des centaines qui ont été parus ces dernières années, c'est celui de Stéphanie Lafranc qui s'appelle Gardienne de la Lune, qui est sorti chez Solar et qui est dispo aussi en pocket. Et il est illustré par l'artiste Vic O, qui est exceptionnel. Les illustrations sont magnifiques également. Voilà.
Je rappelle qu'on peut retrouver vos précédentes chroniques et entre autres celles qui traitaient de sujets connexes. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. On peut retrouver ça sur, entre autres, encore by Spotify.
C'est ça, sur toutes les plateformes d'écoute
et
des podcasts.
Voilà.
Écoutez-moi, cherchez l'Instant X et abonnez-vous. Mettez des étoiles, des trucs.
Et votre chronique est rediffusée le vendredi à 13h à l'antenne. Grâce à Benoît. Vous avez choisi un morceau pour finir
J'ai choisi un petit morceau très très mignon. On se l'écoute et je les annoncerai après.
N'existait pas, et puis je l'ai vu, et depuis.
C'était la chanson qui s'appelle « Elle est taureau » et c'est signé Louisa Donna. Voilà, je ne sais pas si ça vous a plu, moi j'adore cette chanson. Voilà, elle me fait penser à tous les taureaux de ma vie.
Vous venez d'écouter l'Instant X, la chronique qui parle sorcellerie, féminisme et pop culture. Retrouvez-la en direct sur Radio Balistique, 103 FM dans la région de Châteauroux, dans le Balistique Café du mercredi une fois par mois et à tout moment sur Spotify, Google Podcast ou dans votre appli préférée. Merci de votre écoute et à la prochaine.